Vous écoutez France Culture.
Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'Indonésie a lancé ce matin un appel à l'aide internationale après le tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes, faisant au moins 832 morts. Les autorités prévoient à présent des enterrements de masse pour prévenir les risques sanitaires. Nous irons sur place dès le début de ce journal avec Joël Bronner.
Les États-Unis et le Canada ont conclu hier soir un accord à l'arraché visant à sauver l'ALENA en tant que zone de libre-échange tripartite avec le Mexique.
Cet espace était sur le point de disparaître après près de 25 ans d'existence. Tous les détails à suivre sur cette accord avec notre correspondant Pierre-Yves Dugas.
Dans ce journal également direction la Macédoine où les électeurs se sont massivement prononcés hier pour un changement de nom de leur pays.
90% pour le oui, sauf que près de 2 électeurs sur 3 en réalité ont boudé les urnes, un résultat en demi-teinte donc et qui rend incertaine la poursuite de la marche de la Macédoine vers l'UE et l'OTAN, nous dira notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud.
La médecine a ouvert aujourd'hui une saison Nobel 2018 privée de son prix de littérature après son retentissant report.
Et ce matin, le prix Nobel de médecine 2018 a été attribué à 2 hommes, l'américain James P. Allison et le japonais Tatsuko Honjo, pour leur découverte ayant permis de faire avancer la connaissance dans le traitement du cancer, nous dira Benoît Bouscarel.
Les salaires du privé enfin vont augmenter à partir de ce mois d'octobre.
Oui, reste toutefois à savoir si les gains attendus sur les salaires en France correspondent à des gains de pouvoir d'achat. Réponse à suivre avec Marie Viennot.
L'image n'en finit pas de faire le buzz. Lors d'un déplacement ce week-end à Saint-Martin, le président Emmanuel Macron fait un selfie avec 2 jeunes, dont l'un fait un doigt d'honneur face à l'objectif.
L'image a été immédiatement dénoncée par la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Quant au chef de l'État, il cherche à dédramatiser la séquence. Comment ? Nous écouterons l'analyse d'Alexandra Dubucheron, mais aussi Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La folie a un passé et il n'est pas joyeux quand on voit les traitements qui étaient infligés à ceux qui étaient accusés presque d'être fous. Mais la folie a-t-elle un avenir ? Autrement dit, va-t-on vers un renouvellement, une nouvelle psychiatrie ? On en parlera avec notre invité, le psychiatre Patrick Lemoine.
Merci, à tout à l'heure. Les carcasses de véhicules, les arbres déracinés, les bâtiments réduits à des amas de débris, mais aussi les corps étendus recouverts d'un simple sac ou d'une couverture dans des morgues improvisées. Face à la violence de ces images, toujours les mêmes répondent inexorablement la nécessité d'apporter des explications qui malheureusement arrivent toujours trop tard. Les habitants ignoraient-ils la menace d'une catastrophe naturelle ? Étaient-ils préparés au danger d'un séisme ou d'un tsunami ? Le système d'alerte comportait-il des failles ? Toutes ces questions, le gouvernement indonésien devra y répondre, même si pour l'heure, l'urgence est encore ailleurs. Sortir les survivants des décombres et enterrer les centaines de victimes afin de prévenir les risques sanitaires. Devant l'ampleur de la catastrophe, qui selon un dernier bilan a fait au moins 832 morts, les autorités ont lancé un appel à l'aide internationale. C'est un reportage sur place signé Joël Bronner.
C'est une histoire sombre et pleine d'espoir, comme seuls les drames savent en produire. Celle de Zilza Linza, fillette née à 11h du matin dans un hôpital de Palu, 6 heures avant l'arrivée du séisme et du tsunami. Sa famille l'attendait à l'hôpital, comme son père Ayoun, 42 ans, qui n'a pas de patronyme. Il y a vu beaucoup de choses dont le souvenir le font fondre en larmes.
Tout mon cœur est auprès de mes frères. Du fond de mon cœur, ça me rend tellement triste d'avoir vu de mes propres yeux les maisons s'écrouler. Mes frères mourir à cause du tremblement de terre et mes frères mourir aussi à cause du tsunami.
Le tsunami, Priyanka, 16 ans, l'a vu de près avec sa mère qui venait de donner la vie.
Pendant le séisme, je me suis accrochée à ma mère. Elle venait d'accoucher de ma petite sœur. Et elle était très faible. Je lui ai dit de courir, mais elle m'a répondu qu'elle n'en avait pas la force. Alors je me suis juste accrochée à elle avec ma petite main faible. J'avais très peur qu'elle ne tombe. Alors je n'ai pas lâché jusqu'à ce que je me sente un peu plus en sécurité. Et puis mon père est revenu. Après, les gens se sont mis à crier « de l'eau, c'est un tsunami !» J'ai dit à ma mère « cours, maman, cours !» On a failli être entraînés par les flots. J'ai eu tellement peur.
Zilza Linza signifie séisme dans un mot inspiré de l'arabe. La mort est passée par Palou, mais elle n'a pas trouvé Zilza Linza, qui porte pourtant désormais son nom.
Un reportage à Palou, donc en Indonésie, signé Joël Bronner. Sans doute les bookmakers anglais n'auraient-ils pu rêver meilleur scénario que celui du congrès annuel des Tories qui s'est ouvert hier pour alimenter leur passion des paris sur la vie politique en pleine impasse des négociations sur le Brexit. Et à 6 mois seulement de l'échéance, les conservateurs apparaissent plus que jamais divisés sur la stratégie à adopter ou de la difficulté de trouver une porte de sortie avec l'Union européenne au risque de relancer les querelles de leadership à droite. Au moment de s'engouffrer dans sa voiture, sans même prendre la peine de répondre aux questions des nombreux journalistes qui l'attendaient, le Premier ministre Justin Trudeau s'est contenté de déclarer « c'est une bonne journée pour le Canada ». Hier soir, une demi-heure avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Washington, les négociations de l'ALENA ont finalement abouti sur un nouvel accord de libre-échange nord-américain rebaptisé « accord États-Unis-Mexique-Canada ». En vertu de cette nouvelle entente, donc conclue au terme de plus d'un an de négociations tendues, sinon carrément acrimonieuses, les États-Unis obtiennent un meilleur accès au secteur laitier canadien. De son côté, Ottawa a notamment obtenu le maintien de la clause de l'exception culturelle qui protège la culture canadienne du libre marché. Les précisions de Pierre-Yves Dugard.
Il a fallu 13 mois de négociations difficiles, ponctuées de menaces de sanctions radicales par la Maison-Blanche, d'abord sur le Mexique, puis sur le Canada, pour aboutir enfin à un accord tripartite. Les termes du nouvel ALENA ont été acceptés en fait par le Mexique depuis le mois d'août, mais le ralliement du Canada a pris plus longtemps. Le point le plus important du nouvel accord, l'augmentation du contenu minimum issu d'Amérique du Nord pour qu'une automobile entre dans un des trois pays sans droit de douane. Le nouveau système réduit la possibilité pour la Chine d'utiliser le Mexique comme plateforme d'assemblage bon marché pour entrer sur le marché des États-Unis. Donald Trump pense ainsi que ces nouvelles normes vont stimuler l'emploi industriel aux États-Unis. Il obtient aussi une plus grande ouverture du marché canadien du lait.
Le président iranien Hassan Rouhani avait promis que l'attentat perpétré lors d'un défilé militaire à Ahvaz le 21 septembre dernier serait vengé par une réponse terrible. Ce matin, les gardiens de la Révolution ont annoncé avoir bombardé un quartier général de terroristes en Syrie. Une attaque que d'aucuns perçoivent surtout comme un nouveau signe de l'avancement des capacités balistiques iraniennes décriées par l'Occident. Et puis s'agissant de la Russie, l'autre principal soutien au pouvoir du président Bachar el-Assad, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes russes en Syrie auraient fait plus de 18 000 morts, dont près de 8 000 civils, depuis le début de l'intervention militaire de Moscou aux côtés du régime de Damas, il y a 3 ans, jour pour jour. Autre terrain, là encore, où s'exercent les jeux d'influence de la Russie d'un côté et des Occidentaux de l'autre, la Macédoine. La population était appelée hier à se prononcer pour ou contre le changement de nom de leur pays en République de Macédoine du Nord, l'occasion en réalité de savoir si la Macédoine entendait accélérer son cap pro-européen ou bien rester marginalisée à l'Est. En cas de oui, Athènes a en effet promis de cesser de faire barrage l'adhésion de la Macédoine à l'UE et à l'OTAN. Alors, hier, le oui justement l'a emporté à plus de 90%, mais avec un tiers seulement de votants. Et c'est ainsi que ce matin, chacun se demande encore comment déchiffrer les résultats de cette victoire à la Pyrrhus. Les explications sur place de notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud.
Certes, ce référendum n'était que consultatif. Certes, il ne s'agissait que de la toute première étape dans la marche de la Macédoine vers l'intégration dans l'Union européenne et l'OTAN, puisqu'il faut encore que le Parlement macédonien ratifie l'accord avec une majorité des 2/3, puis que le Parlement grec l'approuve à son tour. Mais quand on rate la première marche, il est plus difficile de poursuivre son chemin. Alors, Zoran Zaev, le Premier ministre macédonien, a-t-il échoué à faire accepter à sa population le nouveau nom de Macédoine du Nord? C'est toute la question, car les partisans du oui regardent le plébiscite, plus de 90% en faveur du changement, quand les adversaires qui appelaient au boycott insistent, eux, sur les quelques 2/3 d'abstention. Le quorum de 50% de participation, font valoir les nationalistes, n'a pas été atteint. Fort du soutien de la communauté internationale, le Premier ministre Zoran Zaev a lancé la prochaine bataille politique et se tourne vers le Parlement. Il lui sera plus difficile que prévu de rallier la dizaine de députés nationalistes nécessaires pour compléter sa majorité. En cas d'échec, 2 nouvelles élections pourraient être organisées. Voilà qui ne rend pas très lisible le proche avenir de la Macédoine. Force est toutefois de constater que dans cette mosaïque multiethnique, ce petit pays à l'économie dévastée, la perspective de la stabilité apportée par l'OTAN et de la prospérité promise par l'Union européenne n'ont pas été suffisamment attractives pour balayer la voie nationaliste attachée à l'identité de la jeune République de Macédoine, indépendante depuis moins de 30 ans.
Jean-Claude Arnaud, 72 ans, poursuivi pour le viol d'une jeune femme dans un appartement de Stockholm, a été condamné aujourd'hui en Suède à 2 ans de prison pour viol. C'est ce scandale qui, en mettant au jour les liens étroits entre Jean-Claude Arnaud, marié à une académicienne, et l'Académie suédoise qui finançait son club stockholmois et observait le mutisme complet sur ses écarts de conduite pourtant notoires qui avaient entraîné le report d'un an du prix Nobel de littérature. Et hasard du calendrier, après le prononcé du verdict dans le procès donc de celui qu'on considère comme le fossoyeur du prix Nobel de littérature, eh bien, c'est aujourd'hui que l'institution suédoise qui entend rester le symbole de l'excellence commence à délivrer ses prix. À partir d'aujourd'hui, les différentes académies vont annoncer leurs successeurs et en attendant la physique, la chimie, le fameux prix Nobel de la paix, sans oublier celui de l'économie, ce matin était donc remis le prix Nobel de médecine. Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Un Nobel cette année à 2 têtes.
Oui, James Allison du Centre du Cancer de l'Université de Houston au Texas et Tasuku Honju travaillant lui à l'Université de Kyoto au Japon. Les coloréas sont tous deux des immunologistes réputés, déjà récompensés de nombreuses fois et notamment en 2014, également conjointement pour des travaux qu'ils mènent pourtant chacun de leur côté. Comme l'a rappelé ce matin l'Académie Royale des Sciences de Suède, parmi les piliers de la lutte contre le cancer qui tue encore des millions de personnes chaque année à travers le monde, celui qui concerne la stimulation de notre système immunitaire est peut-être le plus prometteur, c'est aussi le plus récent, sans remettre en cause évidemment l'efficacité de la chirurgie, de la radiologie et des médicaments.
Et c'est justement sur ce nouvel espoir, Benoît, que portent les travaux récompensés ce matin.
Oui, l'immunothérapie, des travaux initiés déjà depuis plusieurs années et qu'on peut appréhender de manière très concrètes puisqu'ils portent déjà leurs fruits dans le traitement du cancer. En se focalisant par exemple sur l'activité du capteur CTLA4, c'est pas si compliqué que ça, écoutez-moi bien Thomas, le capteur CTLA4, Allison, le chercheur récompensé ce matin, un des deux chercheurs, a trouvé les clés pour restimuler les lymphocytes T qui eux-mêmes ont tendance dans certains cas à être piégés par les cellules cancéreuses, à perdre en efficacité et même à se transformer en complices du cancer. On perd dans ce cas-là le bénéfice de ces véritables tueurs de tumeurs. En clair, les lymphocytes T ont parfois des freins qu'il faut arriver à lever et des stimulateurs qu'il faut stimuler. Administrer des anticorps qui vont réactiver ces lymphocytes représente une approche qui est très efficace dans le mélanome malin, dans le cancer du rein et du cancer du poumon, y compris à un stade avancé. Des effets sont aussi repérés depuis plusieurs années pour les cancers de la gorge, du foie ou de la vessie, le tout. Et c'est ça qui est intéressant également, avec des effets secondaires minimes, voire inexistants.
Merci Benoît Bouscarel. On l'appelle la DMZ, cette frontière lourdement armée qui sépare les deux Corées, considérée comme la plus militarisée au monde. Or, c'est là, très précisément, qu'ont débuté ce matin des travaux de déminage. Alors, ces opérations sont pour l'instant limitées à 2 sites. Elles n'en demeurent pas moins l'une des manifestations les plus concrètes aujourd'hui de cette détente intercoréenne initiée cette année. C'est une correspondance à Séoul signée Frédéric Ojardias.
Les démineurs sud et nord-coréens ont commencé ce matin à nettoyer 2 sites sur la DMZ, l'un autour de Panmunjom, le seul point de contact sur la frontière, la même où ont eu lieu 2 sommets cette année, et l'autre à Cholwon, site de l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre de Corée. Les opérations dureront 2 mois, elles visent à réduire les tensions entre nord et sud, elles devraient aussi permettre de retrouver les dépouilles de 300 soldats tués pendant la guerre. Parmi ceux-ci se trouvent d'ailleurs peut-être des militaires du bataillon français, venus en 1950 épauler les armées sud-coréennes et américaines. Il y aurait plus d'un million de mines antipersonnelles le long de la frontière, celles-ci sont parfois déterrées lors de fortes pluies, provoquant la mort de soldats ou de civils. Fin septembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in sont aussi tombés d'accord pour supprimer les postes de garde et interdire les armes à l'intérieur de la DMZ. L'objectif est d'empêcher les accrochages militaires accidentels de dégénérer en un conflit de grande ampleur. Un accord très significatif qui est l'une l'une des conséquences les plus tangibles du rapprochement intercoréen. D'autres signes montrent que les temps changent sur la péninsule. La façade de la mairie de Séoul s'orne désormais d'une immense photo de Kim Jong-un et Moon Jae-in se tenant la main. L'image du despote nord-coréen s'est améliorée de façon spectaculaire au sud, mais les conservateurs sudistes restent sceptiques et ils demandent au régime de Pyongyang des mesures concrètes de démantèlement nucléaire.
En France, une bonne surprise attend les salariés du privé dès la fin du mois d'octobre. Tous les salariés, hormis les fonctionnaires, constateront une augmentation de leur salaire net grâce à la suppression de la cotisation chômage. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui dit cotisation en moins dit effectivement salaire net en plus. Reste à savoir si les gains pour le salaire peuvent être considérés comme un gain de pouvoir d'achat.
Alors, pour les 20 millions de salariés du privé, il y a donc déjà eu une baisse des cotisations de 2,2 points en janvier. À partir d'octobre, nouvelle baisse de 0,95 points. Sur un salaire brut de 2 500 €, cela représente 78 € de salaire en plus par mois. Mais si on veut parler de gains de pouvoir d'achat, il faut tenir compte aussi de ce qui a augmenté, la CSG et l'impôt sur le revenu, puisque si vous touchez un salaire net plus élevé, vous aurez plus de revenus. Compte tenu de tout cela, le salarié à 2 500 € brut, pour reprendre cet exemple, aura 32 € de plus par mois. Peut-on alors parler de 32 € de pouvoir d'achat en plus? Eh bien non encore, car ceux et celles qui fument ou utilisent quotidiennement leur voiture auront payé plus de taxes en 2018. Plus ou moins que leur gain de salaire, eh bien cela dépend de leur consommation et de leur salaire. Pour les retraités, les calculs sont encore plus complexes, mais en gros, au-dessus de 27 000 € de revenus fiscaux par an, il y a une perte de pouvoir d'achat en 2018. Pour compliquer la donne, il faut ensuite tenir compte de l'inflation, 2,3% sur un an, ce qui est beaucoup, et de l'allègement de la taxe d'habitation. Là, les ménages qui vont en bénéficier, 8 sur 10, vont voir la différence en novembre, quand cette taxe est due, mais le gain de pouvoir d'achat dépend de la taxe qu'ils payaient avant, or cela change d'une commune à l'autre. Voilà pourquoi l'idée selon laquelle le pouvoir d'achat des Français augmentera en 2018 a du mal à passer. Les situations sont trop disparates. L'INSEE pourra le dire quand les comptes seront faits, en mai prochain. Mais là encore, ce sera une moyenne et chacun et chacune pourra y trouver à redire.
Merci Marie Viennot. La France mérite mieux qu'une polémique sur un geste idiot. Déclaration ce matin du secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner. Et ce, alors que plusieurs responsables de la droite et surtout de l'extrême droite s'indignent que le président Emmanuel Macron ait pris la peau ce week-end à Saint-Martin avec un jeune homme faisant un doigt d'honneur. À la faveur d'une visite impromptue, c'était samedi dans un quartier de Lille, le chef de l'État s'est en effet prêté un selfie avec deux jeunes dont l'un, torse nu, effectue ce geste donc déplacé face à l'objectif. Alexandra Dubucheron, bonjour.
Bonjour à tous.
Depuis, l'image n'en finit plus de faire le buzz. Quant au chef de l'État, eh bien, il cherche à dédramatiser cette séquence en soulignant qu'il aime, je cite, « chaque enfant de la République, quelles que soient ses bêtises ».
Oui, et pourtant au départ, l'idée semblait bonne en termes de communication. En fait, sur la forme, ce bain de foule rappelle une image très forte de la campagne présidentielle de 2017 à Amiens, chez les Whirlpool, sur le site de l'usine en grève malmenée. Emmanuel Macron fait face, il reprend le dessus et trois mois après, il est élu. Mais là, nous sommes un an et demi plus tard, dans un contexte difficile, sondage en berne, démission de Nicolas Hulot, affaire Benalla. Le chef de l'État veut donc donner l'image d'une présidence humaine et non verticale, empathique et non pas arrogante. Il y a un besoin d'être au contact, d'être naturel, avec d'ailleurs déclaré Emmanuel Macron deux jours plus tôt, sauf que cette sortie-là à Saint-Martin était totalement improvisée. Je cite notre confrère du Figaro sur place, à la faveur d'une averse tropicale virulente, le chef de l'État a faussé compagnie à son service de sécurité. Il s'est engouffré dans un immeuble, immeuble non repéré à l'avance par ses services, comme c'est l'habitude. Et voilà un Emmanuel Macron tout sourire face à un jeune homme qui reconnaît être un ancien braqueur, tout juste sorti de prison. Et puis il y a cette fameuse pose photo aux côtés d'un autre jeune torse nu qui fait un doigt d'honneur à l'objectif, vous l'avez dit. Image désastreuse, réaction indignée de Marine Le Pen sur Twitter le lendemain, cliché relayé aussi à droite par la députée LR Valérie Boyer. Commentaire d'Emmanuel Macron hier, il faut arrêter de penser que notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur ou à un moment a fait des bêtises, il n'y a rien à en tirer, dit-il. Voilà ou comment tenter de retourner une situation à son avantage en contre-attaquant l'extrême droite.
Merci Alexandra Dubucheron. Alors comment le président Emmanuel Macron a-t-il pu se laisser piéger par cette séquence a priori improvisée et à l'évidence non maîtrisée? Élément de réponse avec Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris et président de MCBG Conseil.
On est clairement face à une improvisation, c'est-à-dire que le chef de l'État, qui est quelqu'un de très spontané aussi en communication, qui essaye des choses, a dû se dire que c'était une bonne idée pour, dans sa séquence, dans son moment qui est justement de reconnecter avec les Français, de revenir sur le terrain, a dû se dire que c'était une bonne idée de suivre un peu son impulsion et d'aller chez quelqu'un dans un cadre totalement inattendu pour provoquer justement des réactions et changer un peu son image. Tous les présidents de la République, à ce stade, après un an ou deux ans de mandat, se retrouvent en France très bas dans la popularité, dans leur taux de popularité, et immanquablement, on a une séquence de reconnexion avec les Français, avec des articles de presse sur le président doit reconnecter avec les Français. Donc les Français finissent par avoir l'habitude que le président essaie de reconnecter avec eux. Ça, c'est le premier problème. Donc on voit venir les présidents de loin, en quelque sorte. Et le deuxième problème, c'est que là, c'est pas du tout maîtrisé, que visiblement l'image lui a totalement échappé, et que on voit venir de loin une image qui paraît complètement surréaliste et qui cadre pas du tout avec le président jupitérien qu'il nous promet et qu'il nous donne depuis le début. En période de crise, il ne faut pas chercher à faire du spontané, il ne faut pas chercher à faire de l'improvisation, parce qu'en général, ça se retourne contre vous. Quand on est en période de crise, ça veut dire qu'on est attaqué d'abord, ça veut dire qu'il y a un doute sur vous. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit dans les sondages, c'est un doute sur la personnalité d'Emmanuel Macron. On a le sentiment de finalement ne plus le connaître. C'est l'affaire Benalla qui est passée par là. Et du coup, improviser ou essayer des choses au gré du vent, c'est vraiment s'exposer à être attaqué et à ne plus être compris du tout. Donc, il faudra au contraire arrêter ces séquences de communication-là, réfléchir, se poser avec ses conseillers, avec son entourage, regarder les enquêtes et ce qu'elles disent du sentiment des Français, et construire des séquences qui ont du sens. Là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du selfie. On construit rien avec des selfies, on construit pas d'image avec des selfies. En campagne, oui, mais pas quand on est au pouvoir.
Giscard allait manger chez les Français, il s'est invité comme ça pour jouer de l'accordéon et dîner. Là, on est dans complètement autre chose et c'est raté, quoi.
Alors, Giscard allait chez les Français, oui, c'est pour dîner. Mitterrand est allé une fois chez un paysan pour discuter très longuement avec lui. Mais tout ça était très préparé, c'est-à-dire qu'en aucun cas on avait une improvisation. Les gens étaient contactés à l'avance, la communication organisait les choses pour qu'il y ait par exemple le moins de caméras possible, le moins de photographes possible pour que ce soit plus naturel aussi, pour pas que ce soit des photos posées forcément devant l'objectif. On n'était pas dans une logique de selfie, mais de construction d'image. Là, visiblement, c'est pas maîtrisé, c'est pas préparé à l'avance, et du coup, tout le monde s'approprie l'image du président. Et lui, finalement, il devient l'objet de la communication, mais pas le sujet de la communication. Et en communication, on cherche quand même à garder une certaine maîtrise, à écrire sa propre histoire.
Qu'est-ce que ça veut dire, la position du président en ce moment? Le fait qu'il ne maîtrise pas sa com et qu'il ait besoin d'aller comme ça, à l'improviste, chercher ce contact. Ça veut dire qu'il maîtrise plus grand-chose de sa communication?
Ça veut dire qu'il n'a jamais eu vraiment le temps, au fond, dans sa campagne, de construire une proximité avec les Français. Parce que ça s'est fait très rapidement, il était quasiment inconnu. Et il a profité d'un concours de circonstances historiques qui l'a fait passer au deuxième tour et être élu. Au fond, la question du rapport aux Français ne se l'est jamais vraiment posée. C'est plus dur de le faire maintenant.
De président jupitérien, il est passé à normal il y a quelque temps. Et là, maintenant, on est encore dans une autre phase.
Là, on est dans une phase où, véritablement, il est en crise. C'est-à-dire qu'on a un président qui est en crise d'image. Il se cherche. Il n'a visiblement pas trouvé la solution. Il y a bientôt une intervention télévisée où il va essayer de retomber sur ses pattes, de recadrer tout ça. Et c'est vrai que là, on a quelque chose d'assez inédit sous la Ve République, qui est un président qui est véritablement tout seul, en difficulté, et qui a du mal à s'en sortir parce qu'il est jeune, parce qu'au fond, les Français ne le connaissent pas bien, parce qu'il n'a pas eu le temps de construire un appareil politique autour de lui, parce qu'il n'est pas enraciné, au fond, dans la culture politique française. Donc c'est un président, en réalité, qui se découvre beaucoup plus fragile qu'il ne le pensait. Et cette fragilité-là, elle est terrible pour lui, parce que visiblement, il ne sait pas la gérer.
Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris et président de MCBG Conseil, il répondait à Benoît Bouscarel. La direction d'Air France rencontre aujourd'hui l'intersyndicale à l'origine de 15 jours de grève au printemps dernier. Il sera question des salaires et c'est peu de dire que le nouveau PDG de la compagnie, le Canadien Ben Smith, se s'est attendu au tournant. Enfin, la compagnie aérienne à bas coût Ryanair a, elle, annoncé ce matin une révision à la baisse de 12% de son objectif de bénéfices annuels. Elle évoque notamment une baisse du trafic et des réservations du fait des grèves menées par son personnel navigant dans différents pays européens. On termine avec un mot de météo. Des frontières du Nord jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur les Alpes-Maritimes et la Corse, les nuages donneront des averses fréquentes partout ailleurs. Le soleil dominera, les températures, elles sont comprises cet après-midi entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.